Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Les Faramineux. Alors aujourd'hui nous allons parler danse. Aujourd'hui nous recevons l'artiste dramaturge Katia Montaignac et la chorégraphe interprète Victoria Mackenzie qui vont nous parler du spectacle Sacré qui est présenté à l'Agora de la Danse 11, 12, 13 et 14 mai. Ensuite, en deuxième partie d'émission, bien notre chroniqueur Germain Stouki sera avec nous pour nous présenter son billet d'humeur qui s'intitule aujourd'hui « Amour de masque ». Hâte de l'entendre. Donc pour l'instant, on part avec une musique qui fait partie du spectacle Sacré et puis on en parle dans un instant avec Katia et Victoria.
Thank you.
Et voilà, donc on a écouté un morceau et là on est en ligne avec Victoria Mackenzie. Bonjour Victoria.
Bonjour.
Merci de me répondre. On a quelques mal, un petit peu de mal pour joindre Katia, mais on va en parler ensemble de ce spectacle.
Ok, parfait, je suis là.
Donc vous êtes chorégraphe, interprète, vous participez à ce spectacle, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça, exact.
Alors est-ce que je peux vous demander à vous comment c'est né, parce que c'est une idée assez fabuleuse de prendre la musique de Stravinsky et puis de la mettre avec la danse de la rue. Je trouve ça une idée formidable au départ.
Oui, mais moi, en fait, je suis seulement interprète dans le spectacle. Donc, c'est avec Katia que...
Qu'il faudrait lui demander ça.
Ouais, c'est ça, mais c'est parce qu'elle était la conceptrice de l'idée du spectacle. Moi, je danse dedans. Mais je peux dire que oui, c'est sûr qu'elle avait l'idée de faire une collaboration avec la communauté de street dance de Montréal basée sur... une création, une récréation de Sacré du Pont.
Comment vous vous êtes rencontrés?
Ça fait quand même longtemps que je suis dans la scène de danse contemporaine.
Oui.
Et aussi la scène du street dance. Donc, Katia et moi, on avait croisé plusieurs fois dans le passé. Puis, elle m'a approché, ça fait 2-3 ans, je pense, quand elle a commencé à penser de ce projet-là pour être dedans.
Alors, ce projet, j'ai lu, en tout cas vous allez me dire si c'est bien ça, qu'il y avait 18 interprètes sur scène.
Oui, on est plusieurs.
C'est incroyable. À 18 interprètes, attendez, pas n'importe quoi. Il y a 18 interprètes, dont des enfants, des adultes, mais des enfants et des adolescents. Et les enfants les plus petits ont quand même 11 ans.
Oui, exactement.
Et je trouve ça incroyable.
Deux enfants, puis il y a des adolescents qui s'appellent Gemini. Ils sont dans une dance crew qui s'appelle Gemini. Puis aussi les performeurs, les interprètes un petit peu plus âgés qui font qui fait la deuxième partie du spectacle. Et moi, je fais partie de ce groupe-là.
D'accord. Alors, moi, j'ai vu que dans le spectacle, ça allait jusqu'à 35. Et pourquoi il n'y a pas des plus vieux?
Je sais pas. Je sais pas. C'était une bonne question de demander à
parce que...
Mais je pense que le plus vieux, il a 37, peut-être 36, 37.
Ah non, mais je parlais de plus vieux, genre au-dessus de 50.
Ah oui, mais je sais pas. Dans un monde parfait, peut-être un jour on fait 11 à 90.
Oui, ça serait ça. Ça serait bien s'il répondait de cette manière.
Oui. Et
alors, quand on est sur une... Parce que la danse de rue... Pour moi, en tout cas, hein, j'adore ça. Mais il me semble que c'est beaucoup de l'improvisation. Est-ce que dans ce spectacle, il y en a de l'improvisation?
Oui, bien sûr. Mais nous, on est toujours le plus confortable dans un élément de freestyle. Freestyle, ça veut dire qu'on est libre, c'est de l'improvisation.
Oui.
Donc, c'est sûr que le spectacle, Katia travaille avec nous pour mettre une structure. On fait... Des choix par rapport à l'espace, par rapport à la lumière, le timing, les transitions entre les sections, mais pour les sections solo, pour les sections duo, pour les sections en plus, les sections de groupe, c'est plus un concept qui est là pour donner une structure, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos corps, comment on danse dedans, c'est toujours freestylé. Puis c'est bon parce que ça change à chaque fois, puis ça amène toujours le present moment dans tout ce qu'on fait.
Alors c'est quand même un défi pour les danseurs parce que vous venez pas tous du même monde de la danse.
Mais nous on fait tous du street dance, du club dancing. Donc le freestyle c'est non, je veux dire que c'est pas un défi, c'est plus une zone de confort pour nous.
Ah d'accord.
Oui.
Donc la rencontre a été facile?
Oui.
Qu'est-ce que vous êtes chorégraphe, donc qu'est-ce que vous aimeriez démontrer à travers cet art sur une musique dite classique?
Mais c'est sûr que c'est un challenge pour nous danser sur le Sacré du Printemps. On était chanceuse de travailler avec un DJ Don Barberino qui a fait des remixes, des trames sonores remixées du sacre. Donc, ça veut dire que des fois, il y a un beat qui ressemble plus à un hip-hop. Il y a un beat qui ressemble plus à un house track. Donc, ça nous donne un petit peu plus juste du confort
oui.
Pour danser avec nos traditions.
Alors, on va écouter un danseur là qui parle pendant quelques secondes de ce qu'il a vécu. Et puis, on revient tout de suite après. En même temps, on réessayera d'avoir Katia qui semble être libre maintenant. Donc, okay. On va passer le personnage. Voilà, qui va nous. C'est un danseur, donc. Et puis, voilà.
Ma relation avec la musique du Cirque du Printemps a vraiment changé depuis le début. Au tout début, je ressentais plein de chaos. Elle me semblait vraiment difficile à suivre et à comprendre. Mais avec le temps, j'ai vraiment appris à l'aimer. Elle est remplie de surprises, elle est remplie d'images fortes. Rempli de contraste, rempli de texture. Moi, j'ai vraiment aimé la découvrir petit à petit à travers les mois qu'on a travaillé sur cette chanson du Cirque du Printemps. Et maintenant, je la connais pratiquement par cœur. Elle me parle beaucoup. Je me sens emporté quand je l'écoute. Ouais, vraiment, ma relation a changé depuis le début. Je suis passé d'un chaos à une appréciation.
Alors, qu'est-ce qu'on a en ligne pour l'instant? Donc, vous venez d'entendre donc un des danseurs qui donnait son avis là-dessus. Alors, Jamin Shtouki vient d'arriver. Donc, Jamin, je vais t'expliquer. Donc là, on parle d'un spectacle qui est fait où on a pris le Sacre du Printemps, où on l'a mêlé à la danse de rue, voire même pour en faire certaines fois un rap ou des choses comme ça. Ça a l'air d'être super passionnant et intéressant. Et il y a sur scène 18 danseurs et danseuses, dont les plus jeunes ont 11 ans. Ouais, t'as entendu ça quand t'es... Alors ça, 11 ans, c'est assez, je trouve ça assez exceptionnel, même si...
C'est aussi en plus par rapport à l'idée de mettre sur une musique qui est un truc un peu plus classique.
Et de faire donc de la musique, enfin de la danse, que ce soit du freestyle, du rap,
ça serait du... Et ben maintenant, elle est en ligne. On a Katia. Ah, Victoria.
C'est Victoria.
Bon, ah ben Victoria, on n'arrive pas à voir Katia, donc ouais. c'est pas grave, on va continuer à en parler avec vous. Donc, okay. On en était... Alors, j'expliquais à Jamin, donc notre chroniqueur dans l'émission, que ce qui se passait, ce qui allait se passer sur scène... Et pour les plus jeunes d'entre eux, qui ont peut-être un petit peu moins d'expérience, et encore, c'est peut-être pas ça, qu'est-ce que représente, qu'est-ce qu'il y a de sacré pour eux dans cette danse? Ouais, pour vous aussi, qu'est-ce que c'est qui vous paraît sacré?
Ah, mais je peux seulement parler pour moi, mais tout ce que je peux dire par rapport à qu'est-ce qui est offert par ce spectacle-là, surtout quand on a 18 danseurs, c'est vraiment la communauté.
La communauté. Ah oui, le fait de pouvoir...
D'être tous ensemble, puis chacun fait un style un petit peu différent. Il y a tous les âges. Il y a toutes sortes de gens dans le spectacle qui sont... qui donnent quelque chose de différent. Qui venaient de chaque style, venaient de leur approche. Comment ils voient la danse, comment ils s'intègrent avec les autres, comment ils créent des connexions avec les autres. Donc, c'est vraiment la communauté pour moi. C'est ça que je peux dire.
Alors, tous ceux qui participent font partie déjà d'un, on va dire, d'un club de danse, c'est ça?
Mais font partie de la communauté de soit street dance ou les club dances. Les club dance, ça veut dire dans les clubs, comme par exemple, comme le style qu'on appelle du voguing, du ballroom dance. C'est ça, oui.
Et dans ce spectacle, dont j'ai entendu qu'il y avait combien 18
18 danseurs et danseuses.
Est-ce qu'ils sont en même temps? Est-ce que c'est plus des numéros des uns des autres avec les autres tours? Est-ce que vous savez un peu nous expliquer
comment ça se déroule?
Ouais.
Oui, donc c'est divisé en deux équipes et c'est fait comme ça, parce que, mais surtout avec les règles post-COVID dans l'espace, on peut pas tous être sur scène. en même temps. Donc, c'est vraiment divisé 9-9.
Ah, d'accord, parce qu'il faut laisser, de l'espace.
Exact.
Après, est-ce qu'il y a une histoire dedans? Où on entendait tout à l'heure un des danseurs qui expliquait comment ça l'avait surpris, un peu interloqué, il ne savait pas quoi en penser, puis finalement il s'était laissé emporter là-dedans et que ça lui plaisait beaucoup d'avoir dansé sur cette musique-là.
Mm-hmm. C'est quoi encore la question?
C'est parce que quand... non, il n'y avait pas de question là, j'expliquais juste que tout à l'heure on a entendu le témoignage d'un danseur qui nous disait à quel point... la musique ne lui correspondait pas vraiment. Et puis, il s'était mis à l'aimer parce qu'il avait compris dans cette suite. Puis, d'après ce que j'ai lu, c'est vrai qu'il y a un DJ qui remanipule la musique. Mais il y a un morceau où c'est vraiment le sacre du printemps et qu'il faut danser dessus.
Oui, c'est ça. Puis, cette partie-là qui va être comme la deuxième partie du spectacle où c'est comme le sacre pur. C'est avec l'équipe Gemini. C'est les 9 danseurs, un petit peu comme ados, début 21. Puis nous aussi, les danseurs qui sont là pour la troisième partie du spectacle, qui fait comme la version remixée. On a fait plusieurs heures d'exploration sur le sacre pur. Puis oui, tout à fait, c'est un challenge d'essayer de danser. Parce que le sacre du printemps, ça change toujours. Ça change toujours. D'une émotion, un rythme à un autre. Donc, c'est vraiment difficile à trouver un fil ou d'accrocher dans l'un concept puis essayer de suivre ce concept-là. Parce que la musique change. Toujours.
C'est pas toujours le même beat.
Oui. Non, mais faire du breakdance sur cette musique, extrême. Oui.
C'est très très extrême, puis donc c'est pas une musique qui est facile à rester relax.
Et là, je pense que tu avais posé la question, mais je suis pas certain. Mais et du coup, l'entente entre les plus jeunes et les moins jeunes, c'est bien passé l'assimilation, le travail ensemble.
Oh, mais oui. Mais on a fait un travail un petit peu séparé, mais là, on est en train de faire des répètes ensemble.
D'accord.
Mais oui, mais on aime ça d'être avec les autres, puis c'est mieux, comment on peut dire, the more the merrier.
Oui,
en français.
Oui. Donne-moi le meilleur.
Oui, voilà, c'est ça.
C'est ça.
Le meilleur de chacun, c'est vrai. C'est ça. Bon, bah alors, s'ils sont heureux comme ça, donc c'est ce qu'on va voir. Le spectacle dure combien de temps?
Je crois que ça va durer à peu près 1h30, un petit peu moins.
Ah, quand même, 1h30,
oui. Oui.
C'est bien. Et le choix du morceau de musique s'est fait comment? Vous avez choisi une partie pour en faire la musique pendant 7h30. Comment ça s'est passé ça? Qui est-ce qui choisissait? Est-ce que vous tous, puisqu'il y a Katia puis il y a tous ces invités dont vous faites partie, est-ce que tous ensemble, vous avez créé ce spectacle et la musique choisie aussi?
Mm-hmm. Ça, c'est peut-être une question pour Katia, mais tout ce que je peux dire, c'est dans le Sacre du printemps, Katia a sélectionné des personnages qui correspondent à des différentes parties de la musique.
Alors, oui, allez-y.
Donc, avec ces personnages-là, on a chacun une section de la musique qui nous parle. Et ça, c'est plus comme les sections solo ou les sections qui sont plus destinées à une personne.
Alors, quand vous parlez de personnages, est-ce que vous avez un costume, enfin quelque chose sur scène ou...
Non, c'est plus un personnage qu'on assume dans nos corps, qu'on assume de comment on approche notre approche envers la danse. Donc, moi, par exemple, ma personnage, c'est la femme mature. Donc, ça, c'est quelque chose que j'essaie de garder en tête toujours pendant le spectacle.
Alors, j'ai vu que vous travaillez de votre côté aussi. Vous dansez pour différentes compagnies.
Oui.
C'est ça. Et j'avais lu aussi que vous aviez aussi fait un labo de création.
Oui.
Et que vous travaillez sur la notion, vous avez eu travaillé sur la notion de la mémoire, c'est ça? Ça vous dit que
vous avez lu ça?
Je ne sais plus. C'est en faisant des recherches sur vous que j'ai lu ça et je me suis dit qu'est-ce que c'est que qu'est-ce qui la touche dans le dans la mémoire et pourquoi d'où ça vient.
On travaille, mais moi je travaille souvent avec la mémoire. C'est juste d'amener les morceaux de nos passés dans le présent qui donnent beaucoup d'inspiration, qui est peut-être pas présente toujours. Donc si on pense à comme les moments d'adolescence, les images de notre enfance, les photographes ou bien les objets, les cassettes, les vidéos, tout ce qui vient du passé donne quelque chose, donne un aspect de profondeur dans la recherche artistique pour amener des émotions, des sentiments. Parce que des fois, où on est dans le moment présent, il y a des fois c'est vide, des fois il n'y a pas tant d'inspiration.
c'est là qu'intervient la création, justement.
C'est ça. Exact.
Alors, une dernière question avant qu'on parte. Vous avez mis du temps à chercher votre style de danse ou vous l'aviez trouvé assez vite?
Mais moi, le break était... Quand j'ai rencontré le break, c'était sûr que c'était ça que je voulais faire. Mais par contre, j'ai dansé toute ma vie. J'ai grandi en faisant du jazz, des claquettes, ballet.
Oui.
Tout ça. Puis je faisais du gymnastique aussi. Puis dans le début de mes 21, quand j'ai déménagé à Montréal, j'avais une amie qui m'a amenée dans une pratique de break. Puis c'était là.
Et là, ça a été le coup de cœur.
C'est ça.
Eh ben, en tout cas, on vous souhaite le meilleur. Donc, on le redit, c'est à l'Agora de la danse. Donc, le 11, 12 et 13 mai, c'est à 19h. Et le 14 mai, c'est à 16h. Donc, profitez-en. Allez-y. En tout cas, moi, je vais aller vous voir sur scène. Et j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, ça s'appelle Sacré. Et puis, sacré comme tout ce qui est sacré, mais en même temps, avec notre esprit un peu tordu, avec Jamais, on se dit que sacré, c'est aussi quand on crie des injures.
C'est ça.
Mais, mais c'est pas de cette façon-là qu'il faut le voir. Donc, merci beaucoup, Victoria McKenzie, de nous avoir répondu. Et puis, bonne continuation pour le reste.
Merci à vous.
Au revoir.
Alors, on va partir en musique. Par contre, on va entendre un autre morceau de ce qu'il va y avoir sur scène du spectacle. Voilà,
okay.
Musique.
Un autre morceau. We'll be right back.
Restez avec nous. Dans un instant, on retrouve Jamin Stouki qui nous présente son billet d'humeur qui s'appelle L'amour de masque. Comme d'habitude, vous savez hein, bien que je ne suis pas responsable. Il est seul responsable. Et si après vous...
C'est ça. Appelez vos copains, vos copines pour qu'ils viennent écouter.
Vous tenez à l'insulter ou à lui écrire, c'est à son adresse, c'est pas la mienne. Merci beaucoup, à tout de suite. J'adore faire mon Michel Drucker, j'aime ça. Restez avec nous.
Vous écoutez Les Faramineux avec Arlette Farah. Alors, on vient d'entendre Pierre Quenders qui nous chantait « Religion, désir ». Maintenant, c'est à Jamin Stouki.
Oui, bonjour. Pourquoi Bonjour. Cette petite voix toujours a une petite crainte de...
Mais j'ai, non. J'ai toujours la crainte, donc c'est pour ça que je repréviens chaque fois.
Je suis pas méchant.
C'est les auditeurs qui seraient arrivés. Si jamais je touquille, si jamais vous le connaissez pas et que vous êtes heurté par son langage, c'est pas ma faute.
Je suis quelqu'un de cool, parfois impertinent, mais jamais méchant. Non, donc amour de masque. Parce que le Québec est l'un des seuls endroits en Amérique du Nord, avec l'île du Prince-Édouard, voire même d'ailleurs au monde, où le port du masque est toujours obligatoire. Présent dans nos gestes quotidiens, dans l'espace public. Tiens, par exemple, vous venez d'arriver à l'épicerie, il faut vous masquer pour y entrer. Dans quelle poche je l'ai mis, le con ? Ah, je dois bien en avoir un quelque part dans la voiture. Et vous en trouvez un sur le tapis de sol ou plié dans la portière, déjà porté une dizaine de fois, l'élastique un peu lousse. Du coup, vous le tournez en faisant porter en faisant deux tours sur les oreilles. OK, c'est bon, ça tient, hein. Il est loin le temps où vous manipuliez les masques médicaux avec un soin hygiénique, hein, que vous le changiez aux 4 heures. Quant à ceux en tissu, vous en aviez une vingtaine, que vous laviez tous les jours, à un moment donné, on s'en fout, hein. C'est ça. Vous êtes dans l'épicerie, hein. Et puis, vous vous dépêchez d'aller choisir une salade, avant que la buée dans vos lunettes vous empêche de la voir. Ah, trop tard. Le brouillard s'est levé. qu'est-ce que vous faites? Vous enlevez votre masque et vous vous en servez pour essuyer vos lunettes. C'est quand même pratique, tout qu'on le fait. Puis vous remettez vos lunettes et votre masque, hein. C'est pas compliqué, non? Ça fait plus de 2 ans que vous vivez avec ce bout de tissu, hein. C'est votre relation la plus stable depuis longtemps. Qui l'eût cru? Surtout qu'au début, on vous interdisait de sortir avec lui. Ne portez pas le masque. Trop dangereux. Vous allez le toucher avec vos mains et augmenter vos chances d'attraper le virus, hein. Mais pourquoi le personnel hospitalier en porte alors? Parce que quoi? Parce que c'est tout. Puis, quelques semaines plus tard, changement de discours, hein. Vous devez porter le masque en toutes circonstances. Même que Santé Canada recommande de le garder en faisant l'amour. Ouais, c'est la 50e nuance de gris ou de bleu pâle. Au début de la pandémie, le masque est devenu l'objet le plus recherché sur la planète. Plus que l'or, mais au même prix. Des commandos de Bruce Willis, Tom Cruise ou Chuck Norris, pour les plus vieux, hein, ont eu pour mission de détourner des cargaisons entières. Aucun pays ne voulait perdre la face, hein. On a dépensé des sommes folles pour se procurer ce morceau d'étoffe petit comme un string. Et un jour, la pénurie de couvre-visage s'est réglée. Prenez-en un pour entrer, un autre pour sortir, changez-le aux 4 heures. Pas les N95, bien sûr, hein. Mais les autres, les communs, hein. Ceux qui ne sont pas assez perfectionnés pour avoir une lettre et un chiffre. Hein, ça s'appelle la discrimination des masques. Aujourd'hui, on a plus peur de manquer de chips que de masques. On a cru pendant un certain temps que le masque deviendrait même tendance. Les grandes marques se sont amusées à sortir leurs lignes griffées. Les grosses entreprises en ont distribué à leurs couleurs. Mais la mode s'est vite essoufflée, hein. Mais oui, ça change régulièrement. Personne n'est dupe. Ça reste un vulgaire écran à bave. Auquel on s'est habitué. Tellement que lorsqu'on croise dans un endroit public quelqu'un sans masque, ça nous met en état de choc. Il serait complètement nu avec seulement un masque, on s'en foutrait. Mais le bout du nez et la bouche sont devenus les nouveaux organes interdits à dissimuler à tout prix. On peut tous se vanter d'être de bons citoyens responsables et de porter le couvre-visage en tout temps, mais il faut quand même avouer qu'on le porte n'importe comment. On est tous atteints du syndrome du coach de sport. Le coach de sport.
Qu'est-ce que c'est le syndrome du coach de sport?
Le coach de sport enlevant systématiquement son masque pour crier dans les oreilles de ses joueurs et le remettant avec application quand il n'a plus rien à dire.
Et j'aurais pas dû poser la question, je le savais.
Contrairement au coach, on a compris que c'est lorsqu'on propulse des postillons qu'il faut que le masque soit bien ajusté. Le problème, c'est que la pandémie nous a fait réaliser qu'on ne parle pas seulement de la bouche, on parle du nez aussi. Le mouvement de nos lèvres entraîne aussi le mouvement de notre nez, ce qui nous fait glisser le masque en bas de nos narines ou remonter sur les yeux. Et on passe notre conversation à se remonter ou à descendre le linge.
Ça, c'est vrai.
Ce qui nous a fait développer un tic nerveux. Tellement que le jour où on sera libéré du masque, on va continuer en parlant à se remonter à un linge invisible. Mais en serons-nous libérés un jour? Telle est la question. C'était dimanche dernier que le docteur Boileau devait recommander ou non au gouvernement la levée de l'obligation de porter le masque à compter du 14 mai. On n'a pas eu l'information. Moi, du moins, je ne l'ai pas vu passer. Comme d'habitude, manque de transparence. Les avis sur la question pourtant sont partagés. Hein. Certains disent qu'il est plus que temps de se démasquer. D'autres disent que le virus circule encore beaucoup et qu'il vaut mieux être prudent. Nous, on ne sait plus. On a hâte de s'enlever ça du visage. Mais on n'haïrait pas ça que les autres continuent à le porter. Ça ne nous protège pas juste de leur Covid-19, mais aussi de leur mauvaise haleine, de leur poil de nœud disgracieux et de leur air bête. Hein. C'est ce qui n'est pas rien. Vous sortez finalement de l'épicerie, après avoir mis le sac dans l'auto. Vous rentrez à la maison, vous préparez le souper, appelez les enfants. Vous devez répéter plusieurs fois avant que tout le monde ne passe à la table. Vous venez pour manger. Oups, la bouchée ne passe pas. Ah merde, vous avez oublié d'enlever votre masque depuis l'épicerie. On sait que quelque chose fait vraiment partie de notre vie quand on n'oublie pas de le mettre, mais quand on oublie de l'enlever. Moi, je n'oublierai pas de l'enlever et de les jeter tous, oui tous, à la poubelle.
Oui, à la poubelle, et ça va où après?
Jusqu'à la prochaine vague. Ouais, je ne parlais pas d'écologie, je parlais du masque.
Moi, ça me fait penser à l'écologie, mais bref.
Oh, il n'y a plus crade.
Nous partons en musique, bah, peu importe, il faut protéger notre terre.
Moi, je m'en fous, ils sont en tissu et je les lave, donc moi, je recycle.
Alors, Naomi qui nous chante « Pas le temps de jouer ».
Pas le temps de jouer, pas le temps de jouer. Oh non, j'ai pas le temps de faire semblant. Aucune deuxième chance, y a faux départ. Si t'es à l'heure, t'es en retard. Les bouchées d'eau pourraient arriver, tu sais, faut pas juste y croire. Pour écrire les pages de mon destin, si je trouve les mots, je trouve mon chemin. Y'a pas plus rapide qu'aller lentement. Ce qui va vite ne va jamais loin.
Voilà, donc Jamin Chtouki.
C'est moi-même.
Très bien. Bon, on a parlé des masques. Moi, je me demande quand est-ce qu'on va trouver un moyen de détruire tout ce qui détruit la planète tout en faisant pas de l'enfouissement comme ça dans n'importe quel sol, mais de vraiment faire un nettoyage.
Bah, on parle de recyclage.
On parle de recyclage pour le plastique. Est-ce qu'on a du recyclage aussi pour les masques? Parce qu'en changeant, pour ceux qui changent tous les jours, ça
coûte. Moi, je pense que oui, c'est du tissu. Simplement, c'est qu'il faut avoir les endroits pour le faire.
Oui. Hein,
plutôt que de nous faire chier avec des pistes cyclables. Bon, on pourrait faire une usine ou deux de trucs de recyclage. Je pense que c'est un petit peu plus important pour la planète que...
C'est très important.
Juste bloquer la circulation. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien.
En glissant de la politique vers le théâtre,
c'est un grand écart.
Comment ça se passe pour vous dans les théâtres, enfin pour toi dans le tien, au niveau politique, vous avez droit, parce qu'à un moment donné, il y avait une jauge de personnes et tout. Est-ce que tout ça s'est passé à de patresse?
On ne sait pas.
Toujours, on ne sait pas, d'accord.
On ne sait pas. On fait comme on pense. Pour le moment, il n'y a plus de distanciation. Il n'y a plus de limitation, du moins dans les petits. Je crois que même dans les grands, hein, je crois que même pour le Centre Bell, ils ont libéralisé un petit peu tout ça.
Oui.
Les grandes salles, etc. et tout, parce que les spectacles sont repartis.
Ah,
hein,
les grandes
dose.
Salles, on est les uns à côté des
voilà,
autres.
Y a
par
juste
contre,
l'obligation,
on garde le masque.
Voilà, il y a encore l'obligation de garder le masque quand c'est en ce qu'on appelle chez nous en Europe. En randonnion, donc en théâtre, en siège fixe les uns à côté des
oui,
autres.
Oui, voilà, c'est ça.
Voilà, tu vois, nous, on est en formule cabaret, mais comme on a gardé encore une certaine distanciation, les gens assis enlèvent le masque. Ils ne
d'accord.
gardent que pour se déplacer, comme c'était le cas
c'est
auparavant.
C'est déjà plus facile, parce que rester une heure et demie, voire deux heures, c'est pas si évident
voilà.
que ça.
Mais on n'a aucune info. On n'en avait déjà pas avant, parce qu'il fallait courir après, il fallait vraiment gratter pour l'avoir. Donc là, on n'en a pas. Et sinon, pour ça, au niveau de l'affluence, ben oui, on a pris un coup dans les gencives, tous. Je ne parle pas que de moi, parce
oui.
que je vois des... Je ne citais pas le nom, mais on a un artiste très connu qui est venu répéter dans notre salle il y a une semaine, 10 jours, parce qu'il va faire un Olympia bientôt. Et on discutait avec la production et puis d'une autre production aussi qui nous disait, ben oui, on ne sait pas comment on va faire pour remplir. Parce que ben on n'a pas la visibilité qu'on avait auparavant. On croit que même quand t'es un grand nom, une grande vedette, ça remplit. Eh ben non, ça remplit pas forcément parce qu'à cause de ces contraintes, le masque,
oui.
les prix, l'inflation, encore
surtout sur un truc musical où on a envie de chanter, on a envie de bouger, on a envie de boire un coup en même temps. C'est pas toujours évident de rester avec le masque sur la bouche.
Donc on navigue à vue, mais à une semaine, on ne peut pas extrapoler très bien. Et, oui, on a perdu en influence. Ça va, globalement, tout le monde s'en sort un petit peu. Il y a les grosses prods, bah, quand c'était des grandes salles, tout ça, c'était compliqué. Ils ont pu s'en sortir parce qu'il y avait les reports et tout. Mais les nouveaux qui viennent là, etc., ils ont du mal à remplir. Et puis nous, on récupère des clients qu'on n'avait plus vus depuis le début de la pandémie. Donc ça nous fait du bien, mais on en a perdu aussi beaucoup en cours de route.
Oui.
Et c'est pas forcément d'ailleurs la pandémie, c'est plus pour nous personnellement et les autres salles du centre-ville, les gens ne veulent pas venir dans le centre de Montréal.
Ah bon, pourquoi?
Oui. Pourquoi?
Trop difficile de se garer.
De circuler tout court, prendre ta voiture si t'en as une, essayer de descendre de Laval ou de la rive sud, c'est insupportable. C'est pour ça que je reviens régulièrement sur, parce que moi j'ai un véhicule et je conduis. Et voilà, entre les nids de poules, les travaux, rue piétonne par-ci, le tunnel de la fontaine qui est fermé, c'est une merde incommensurable pour venir.
Et puis on arrive vers l'été, donc il va y avoir des travaux.
Voilà, c'est le parcours du combattant, toutes les rues piétonnes qui vont se mettre en place, etc.
Oui.
Donc là, ça ne donne pas envie aux gens de venir en centre-ville. On n'a plus les travailleurs du centre-ville qui sont en télétravail encore, beaucoup, pour plus de 50%. Donc en fait, il n'y a pas beaucoup de monde en centre-ville. Donc les salles, les lieux, les endroits du centre-ville... à part peut-être un peu des fins de semaine, c'est très, 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 très compliqué.
Alors, je ne sais pas. J'aime jamais retourner au cinéma, donc je ne sais même pas comment ça fonctionne aussi pour les cinémas.
C'est calme aussi, à part quand il y a des gros blockbusters, mais c'est calme aussi, oui.
Oui.
Non, c'est... En plus, là, les beaux jours arrivent, donc les gens vont plutôt commencer à essayer plutôt de se mettre dehors, sur les terrasses,
c'est ça.
Un truc, plutôt qu'à aller s'enfermer.
Et puis aussi dans les endroits où ils pourront enlever le masque puisqu'ils sont en extérieur, donc ça va les aider aussi là-dedans.
Exactement.
C'est sûr.
Mais bon, on garde le moral, on a plein de belles programmations, de belles choses, qu'on arrive quand même à s'en sortir l'un dans l'autre. Les gens sont très heureux, ça c'est super encourageant d'avoir le sourire, les yeux qui pétillent à la sortie.
Dans quoi as-tu dû faire preuve de créativité quand il y a eu tout ça? Qu'est-ce que tu as amené, que tu as changé, que tu n'aurais peut-être pas changé si on n'était pas passé par tout ce qui nous arrivait dans ces deux dernières années, par exemple?
Déjà de passer en formule cabaret définitivement, c'est-à-dire mettre les petites tables, les chaises.
Oui.
Avant, on était en rangée quand on avait beaucoup de monde et puis on mettait des petites tables au milieu, mais et on avait eu des retours clients ou qu'ils appréciaient moins. et on a eu beaucoup plus de positifs quand on a fait cette formule-là. Donc ça, on voilà, on
a, ça, ça va rester.
Ça, on a gardé.
Quoi qu'il se passe.
On a aussi involontairement, parce que ben la pandémie a fait du mal. Il y a plein de salles qui ont fermé, il y a plein de compagnies qui ont fait faillite, il y a plein d'artistes qui sont recyclés dans d'autres choses. Donc
oui,
il y a moins d'endroits et de choses à faire, et donc on est plus sollicité aussi. Donc on a par chance, et ben des choses que l'on propose, c'est plus nous qui devons faire toutes nos productions toute la semaine. C'est fait que moi, je me garde les fins de semaine, j'en partage avec certains vraiment qui en veulent. Et le reste de la semaine, on a plus de gens, ce qu'on appelle les productions extérieures. Et ça, c'est bien aussi. On commence à faire notre petit trou par rapport à ça, à faire notre petit
dans
nom.
Dans des locations et des choses comme ça,
voilà,
des locations
vois,
de salles.
Là, les 15 jours qui viennent, c'est la cantatrice chauve de UNESCO qui est faite par une compagnie semi-amateur, parce que ce n'est pas des professionnels parce qu'ils n'en vivent pas, mais c'est des gens qui ont déjà joué, qui ont l'expérience, donc ce n'est pas des amateurs débutants. Ils sont là 2 semaines, ils font 8 ou 10 représentations. Je peux l'annoncer maintenant, mais je ne sais pas si j'avais dit la semaine dernière, nous faisons partie du festival Fringe, c'est officiel, donc 3 semaines en juin. Voilà, c'est un festival underground très très important, anglophone à la base,
très, très connu,
qui est mondial.
Qui est, anglophone à la base, mais il y a belle lurette, il y a beaucoup d'années où il y a des spectacles francophones,
fait
déjà longtemps.
Il y a francophone bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est surtout que c'est pas né ici, c'est né, je crois, c'est pas en Allemagne ou en Écosse, quelque chose. Et tu as des fringes partout dans le monde en fait, donc on y est. Première année, j'espère que ça va super bien se passer. On est très heureux d'avoir ce partenariat-là qui se déroule tout le mois de juin, enfin 3 semaines de juin. Voilà, des spectacles d'été, nos tournées, des divers projets qui se mettent en place. Une tournée de spectacles francophones dans le reste du Canada, dans les provinces anglophones.
Ah oui?
Ouais. On essaye de monter ça, d'aller jouer à Winnipeg, Calgary, Vancouver.
D'avoir, il y a suffisamment de francophones.
Oui.
Dans ces régions-là.
Parce que moi, je vise pas des Saint-Denis. Moi, c'est des 150-200 places. Et ça, il y en a plein partout. Et c'est assez facile. Et oui, il y a énormément de francophones dans le reste du Canada. Même parfois dans des petites villes. Parce que là, j'ai cité des grandes villes. Mais on m'a dit, il y a des petits endroits à côté, en Ontario, où tu vas et tu peux te poigner les 200 personnes sans problème. Parce qu'ils n'ont justement pas de spectacles francophones à voir.
Francophone. Mais c'est bien,
surtout
c'est
en humour.
Oui.
Et dans ce qu'on fait, le Café Théâtre Vaudeville, ça les attire plus. Il y a beaucoup d'humoristes qui y vont, mais on va proposer autre chose. Donc on a voilà, tout ce type de projet.
Quelles sont les pièces que tu fais tourner?
Bah, il y aura bien entendu les Hommes viennent de Mars, les Femmes de Vénus, qui est mon cheval de bataille.
Évidemment. Et puis il y aurait des choses à dire. Il y aurait presque des choses pour changer des pour amener encore d'autres choses dans le texte avec ce qu'on a vécu là, ça serait...
On a le nouveau show que j'ai créé là qui s'appelle Maudit Job avec mon partenaire qui est un show, ce qu'on appelle, ils appellent ça ici un show valise. C'est-à-dire que c'est un show que tu peux poser n'importe où parce qu'il n'y a pas de décor, il n'y a rien, c'est une table, deux tables, deux chaises. On gère quasiment tout.
Ce sont les
tout.
Personnages qui font le décor.
Ouais, il y a juste une lumière, c'est un plein feu. Donc il y a celui-là et puis ben les autres, j'ai le sexe pour les nuls pour après aussi et puis ben voilà tout ce qu'on a plus ou moins en programmation qu'on peut mettre et puis on va tout doucement en traduire certains aussi en anglais pour ben, quand on se déplace, comme ça on pourra faire un soir le spectacle en français, le lendemain le soir en anglais, comme ça on peut viser les deux communautés.
Tu parles suffisamment, tu maîtrises suffisamment bien l'anglais pour faire de l'humour en anglais.
J'ai pas dit que c'était moi qui allais le faire. J'ai dit qu'on allait faire des spectacles en anglais. Je vais voir. Je pense que j'en suis capable, mais ça me demandera beaucoup de travail.
Ouais, c'est ça.
Mais on verra, on verra.
C'est
bien d'avoir plein de projets.
Toute façon, le principe, c'est même d'avoir des projets. Après, on emmène certains au bout, d'autres un petit peu plus tard, peu importe. Il faut au moins être dans l'action.
Voilà.
Dans cette action-là, c'est déjà bien. Mais je pense à un texte, je pense à un texte dit en anglais avec ton accent belge et ta face, ça va donner du côté anglophone.
J'ai un accent plus ou moins correct, en tous les cas mieux que ceux des Français qui essayent de parler anglais.
Ça c'est. Alors c'est pas moi
French
qui dis.
I speak very well French.
C'est pas moi qui dis le contraire
France,
parce que quand j'entends des émissions françaises des fois où ils reçoivent un invité qui est américain par exemple et puis qui lui parle, je dis même moi je fais mieux que toi mon gars et pourtant je suis pas bonne alors.
Parce qu'il faut savoir que donc en Belgique on a 3 langues.
Oui.
Tu sais on a le français, le flamand et du côté germanophone les allemands.
Oui.
Mais pour que les francophones et les flamands ne se chamaillent pas, ne se disputent pas, on parle anglais. On met tout en... C'est pour ça qu'on a beaucoup de mots anglais. D'accord. Un parking au lieu d'un stationnement.
Excuse-moi, parce que je pensais au français, pas au belge. Excuse-moi, ouais. Évidemment.
Et c'est pour ça qu'ici, au Québec, ils défendent la langue française. De l'autre côté, il y a les anglophones. Ouais. Donc, ils en ont moins. Mais nous, voilà. Je t'expliquerai une anecdote si tu veux.
D'accord. Une autre fois, on n'a pas le temps là.
On n'a plus le temps.
Non, ouais, si, on part en musique. Secondes.
On a un centre d'achat qui s'appelle la Bruxelles City 2. Alors que du côté francophone, il s'appelle Ville 2. Et du côté flamand, il s'appelle Stad 2. Ça veut dire exactement la même chose, mais à Bruxelles, on est devant prendre l'anglais comme ça, on fâche personne.
Alors, on part en musique avec King Maliba qui nous chante « Comment tu vas ?»
Et c'est pas le seul de King Maliba.
Je viens aux nouvelles, je viens aux nouvelles pour savoir comment tu vas, comment tu vas. Tu m'as dit que tu seras là, je t'ai pas vu au rendez-vous. Oh ma fille, ça fait tellement longtemps, oh mon fils, ça fait tellement longtemps. Tu m'as dit que tu reviendras, je t'ai pas vu au rendez-vous. Oh mon père, ça fait tellement longtemps, oh ma mère, ça fait tellement longtemps. Tu es parti, il est parti, elle est partie, vous êtes parti. Tu es parti, il est parti, elle est partie, vous êtes parti. Je viens aux nouvelles, je viens aux nouvelles pour savoir comment tu vas, comment tu vas. Allô papa, allô maman, hey mon fils, comment tu vas, comment tu vas. C'est ma fille, tu sais mon fils. Ça fait des mois, je reste toute seule. Personne ne m'appelle, personne vient me voir. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Tu vois ma mère, tu vois mon père. Ça fait un bail, je ne vois personne. Seul dans mon monde, seul dans mon monde. Et pourtant, vous êtes tout près. Tu es parti, il est parti, elle est partie. Vous êtes parti, tu es parti, il est parti, elle est partie. Vous êtes parti. Je viens aux nouvelles, je viens aux nouvelles pour savoir comment tu vas, comment tu vas. Allô papa, allô maman, hey mon fils, comment tu vas, comment tu vas. Seul chez moi, je ne pense qu'à toi. 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 Je viens aux nouvelles, je viens aux nouvelles pour savoir comment tu vas, comment tu vas. Allô papa, allô maman, hey mon fils, comment tu vas, comment tu vas, comment tu vas.
Écoute, ça voilà. Va.
Alors, comment va. Tu vas bah, comment vous allez? Donc, on va me dire merci. Bah, Katia Montagnac, on essayera de la rejoindre à un autre moment dans la semaine si on a un petit peu de temps. Merci à Victoria McKenzie d'avoir été avec nous. Merci, Jamin Stouki. Merci à Maurice Bolduc pour la technique et les chansons. Et puis, surtout, merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Au revoir.
À la prochaine. Bye bye.